Ainsi obsédé par des ambitions, des espoirs et des rêves trompeurs qui promettent le bonheur pour mener seulement, en fin de compte, au mal-être, nous ressemblons à des personnes mourant de soif, rampant dans un désert sans fin. Et tout ce que ce samsara nous offre à boire, c'est un verre d'eau salée, destiné à nous assoiffer davantage encore. Faire face à la mort. Sachant cela, ne devrions-nous pas écouter ces paroles de Gyaltsé Rinpoché? Faire des projets d'avenir, c'est comme aller à la pêche dans le lit sec d'un torrent. Rien n'arrive jamais comme on le souhaite. Aussi, abandonnez tous vos projets et ambitions. S'il vous faut, penser à quelque chose, que ce soit à l'incertitude de l'heure de votre mort. Pour les Tibétains, le Nouvel An est la fête principale de l'année. On pourrait dire qu'il réunit à la fois Noël, Pâques, le 14 juillet et votre anniversaire. Patrul Rinpoché était un grand maître et son existence abonda en épisodes excentriques qui donnaient vie à l'enseignement. Au lieu de célébrer le Nouvel An et de souhaiter aux gens une bonne année, Patrul Rinpoché avait coutume de pleurer. Lorsqu'on lui en demandait la raison, il expliquait qu'une année venait encore de s'écouler et qu'un grand nombre de gens s'étaient rapprochés de la mort sans pour autant y être préparés. Songeons à ce qui a dû arriver à la plupart d'entre nous, un jour ou l'autre. Nous flânons dans la rue, nous suivons des pensées inspirantes, réfléchissons à des questions importantes ou écoutons simplement notre Walkman, quand, soudain, une voiture débouchant à vive allure nous frôle, manquant de justesse de nous écraser. Allumez la télévision ou jetez un coup d'œil à un quotidien. Vous verrez la mort partout. Les victimes de ces accidents d'avion ou de voiture s'attendaient-elles à mourir? Comme nous. Elles considéraient la vie comme allant de soi. Combien de fois avons-nous entendu parler de personnes de notre connaissance ou même d'amis qui sont morts subitement? Nous pouvons mourir sans même être malades. Notre corps peut soudain tomber en panne et se détraquer, tout comme notre voiture. Il se peut qu'un jour nous allions très bien et que le lendemain nous tombions malades et mourions. Milarepa chantait. Quand vous êtes fort et en bonne santé, vous ne pensez pas à la maladie qui peut survenir, mais elle vous frappe. Avec la force soudaine de l'éclair, engagé dans les affaires du monde, vous ne pensez pas à l'approche de la mort. Rapide, elle surgit comme l'orage qui éclate sur votre tête. Nous devons nous secouer de temps à autre et nous interroger sérieusement. Et si je devais mourir cette nuit, qu'adviendrait-il alors? Nous ignorons si nous nous réveillerons demain et en quel lieu. Si l'on expire et qu'on ne peut plus inspirer, la mort survient. C'est aussi simple que cela. Comme le dit un proverbe tibétain, demain ou la prochaine vie, on ne sait jamais ce qui, des deux, viendra en premier. Certains maîtres contemplatifs célèbres au Tibet avaient coutume de vider leur tasse et de la poser à l'envers, à côté de leur lit. Le soir, quand ils se couchaient, car il n'était jamais sûr de se réveiller le lendemain matin pour s'en servir. Ils éteignaient même leur feu la nuit sans prendre la peine de garder des braises pour le jour suivant. D'instant en instant, ils vivaient dans l'éventualité d'une mort imminente. non loin de l'ermitage de Jigme Lingpa, se trouvait un étang qu'il avait grand-peine à traverser. Lorsque quelques disciples lui proposèrent de construire un pont, il répondit « À quoi bon ? Qui sait si je serai seulement encore en vie demain soir pour dormir ici ?» Certains maîtres s'efforcent de nous ouvrir les yeux sur la fragilité de la vie à l'aide d'images encore plus brutales. Ils nous suggèrent de méditer sur nous-mêmes comme sur un condamné quittant sa cellule pour la dernière fois. Un poisson se débattant dans un filet ou un animal attendant sa fin à l'abattoir. D'autres maîtres encouragent leurs étudiants à imaginer des scénarios très réalistes de leur propre mort, dans le cadre d'une contemplation calme et méthodique. Les sensations, la souffrance, le sentiment de panique, d'impuissance, le chagrin de leurs proches, la prise de conscience de ce qu'ils ont ou n'ont pas accompli dans leur vie. Le corps est étendu sur un lit pour la dernière fois. Des voix murmurent des paroles d'adieu. L'esprit regarde passer un ultime souvenir. Quand cette scène finale se jouera-t-elle pour vous ? Il est important de se rappeler avec calme, encore et encore, que la mort est une réalité et qu'elle vient sans prévenir. Ne soyez pas comme le pigeon du proverbe tibétain qui s'agite toute la nuit pour faire son nid. Lorsque l'aube paraît, il n'a pas encore trouvé le temps de dormir. Comme le disait Drakpa Galtsen, un maître éminent du XIIe siècle, les maîtres passent leur vie entière à se préparer et encore se préparer, pour se retrouver non préparé lorsqu'arrive la prochaine vie. Prendre la vie au sérieux. Ceux qui comprennent combien la vie est fragile savent, souvent mieux que quiconque, à quel point elle est précieuse. Je fus invité un jour en Angleterre à une conférence dont les participants étaient interviewés par la BBC. Ils étaient en même temps en communication avec une femme qui était en train de mourir. Elle était en proie à l'affolement, car jamais auparavant, elle n'avait pensé que la mort fût une réalité. Maintenant, elle le savait. Elle avait un unique message pour ceux qui allaient lui survivre. Prendre la vie et la mort au sérieux. Prendre la vie au sérieux ne signifie pas se consacrer entièrement à la méditation, comme si nous vivions dans les montagnes himalayennes ou jadis au Tibet. Dans le monde contemporain, il nous faut certes travailler pour gagner notre vie, pourtant ce n'est pas une raison pour nous laisser enchaîner à une existence routinière, sans aucune perspective du sens profond de la vie. Notre tâche est de trouver un équilibre, une voie du juste milieu. Apprenons à ne pas nous surcharger d'activités et de préoccupations superflues, mais au contraire, à simplifier notre vie toujours davantage. La clé nous permettant de trouver un juste équilibre dans notre vie moderne est la simplicité. Dans le bouddhisme, c'est précisément ce dont il s'agit lorsque l'on parle de discipline. En tibétain, discipline se dit Tsul Trim. Tsul signifie approprié ou juste. Et Trim, règle ou voie. Ainsi, la discipline consiste-t-elle à faire ce qui est juste ou approprié. Cela équivaut dans cet âge extrême, d'extrême complexité, à simplifier notre vie. La paix de l'esprit en découlera. Vous aurez plus de temps à consacrer aux réalités spirituelles et à la connaissance que seule la vérité spirituelle peut apporter, ce qui pourra vous aider à affronter la mort. Malheureusement, bien peu de gens s'en préoccupent. Peut-être est-ce le moment de nous poser cette question. Qu'ai-je réellement accompli dans ma vie ? J'entends par là, qu'ai-je réellement compris de la vie et de la mort ? J'ai été encouragé par les témoignages parus dans des études sur l'expérience de proximité de la mort, comme les ouvrages de mon ami Kenneth Ring ou d'autres auteurs. Un nombre saisissant de personnes ayant survécu à un accident presque fatal ou à une expérience de proximité de la mort y décrivent une vision panoramique de leur vie, avec une netteté et une précision troublantes. Elles revivent les événements de leur existence. Parfois, elles éprouvent même les effets que leurs actions ont eus sur les autres et font l'expérience des émotions que ces actions ont provoquées. Un homme confié ainsi à Kenneth Ring. J'ai compris que chacun de nous est envoyé sur Terre pour apprendre et réaliser certaines choses. Exprimer plus d'amour, par exemple. Nous aimer davantage les uns les autres. Découvrir que ce sont les relations humaines et l'amour qui sont les plus importants, et non les choses matérielles. Et comprendre que, sans aucune exception, tout acte de notre vie est enregistré. Et que, même si on n'y prête pas attention sur le moment, il ressurgira toujours plus tard. Parfois, cette revue de la vie se déroule en compagnie d'une présence resplendissante, un être de lumière. Un point ressort de ces divers témoignages. La rencontre avec cet être révèle que les seuls buts réellement valables de l'existence sont d'apprendre à aimer les autres et d'acquérir la connaissance. Une personne racontait à Raymond Moody. Lorsque l'être de lumière apparut, la première chose qu'il me demanda fut « Montre-moi ce que tu as fait de ta vie. » Durant tout ce temps, il mettait l'accent sur l'importance de l'amour. Il semblait aussi beaucoup s'intéresser à tout ce qui touchait la connaissance. Un autre, encore, disait à Kenneth Ring. On me demanda, mais pas avec des mots. La communication était mentale, immédiate et directe. Ce que j'avais accompli de bénéfique pour l'humanité ou ce que j'avais fait pour lui permettre de progresser. Ce que nous avons fait de notre vie détermine ce que nous serons au moment de notre mort. Et tout, absolument tout, compte.
Nuages d'automne. Dans son monastère, au Népal, le disciple le plus ancien de mon maître, le grand Dilgo Khyentse Rinpoche, venait de conclure un enseignement. Il était l'un des maîtres les plus éminents de notre temps, celui du Dalai Lama lui-même, ainsi que de nombreux autres maîtres qui le considéraient comme un trésor inépuisable de sagesse et de compassion. Nous respections tous cet homme de grande stature, cette montagne de chaleur et de douceur, ce mystique qui avait passé 22 ans de sa vie en retraite, à la fois érudit et poète. Dilgo Khyentse Rinpoche faisait alors une pause, porta son regard au loin. J'ai maintenant 78 ans et j'ai bien vu des choses dans ma vie. Tant de jeunes gens sont morts, tant de personnes de mon âge et tant de vieilles gens sont mortes aussi. Tant d'individus haut placés sont tombés très bas. Tant d'autres qui se trouvaient au bas de l'échelle se sont élevés. Tant de pays ont changé. Il y a tant de troubles et de tragédies, tant de guerres, tant de fléaux, tant d'effroyables destructions partout dans le monde. Pourtant, tous ces changements n'ont pas plus de réalité qu'un rêve. Si vous regardez au fond des choses, vous comprendrez qu'il n'existe rien qui soit permanent ou constant. Rien. Pas même le poil le plus ténu de votre corps. Et cela n'est pas une théorie, mais quelque chose que vous pouvez réellement parvenir à savoir et à réaliser, et même à voir de vos propres yeux. Je me demande souvent comment se fait-il que tout change. À cela, je ne trouve qu'une réponse. C'est ainsi qu'est la vie. Rien, absolument rien, ne possède le caractère durable. Le Bouddha a dit:
cette existence qui est la nôtre est aussi éphémère que les nuages d'automne. Observer la naissance et la mort des êtres est comme observer les mouvements d'une danse. La durée d'une vie est semblable à un éclair d'orage dans le ciel. Elle se précipite, tel un torrent dévalant une montagne abrupte.
C'est avant tout parce que nous n'avons pas réalisé la vérité de l'impermanence que nous éprouvons tant d'angoisse devant la mort et tant de difficultés à la regarder en face. Nous désirons si désespérément voir tout continuer comme à l'ordinaire, que nous nous persuadons que rien ne changera jamais. Mais c'est là une chimère, et comme nous le découvrons si souvent, et que nous croyons n'a pas grand-chose à voir, sinon rien, avec la réalité. Pourtant, c'est cette illusion, avec ce qu'elle comporte d'informations erronées, d'idées et de suppositions, qui constitue les fondations branlantes sur lesquelles nous bâtissons notre vie. Peu importe que la réalité vienne sans cesse nous contredire, nous préférons continuer, dans un élan de courage désespéré, à entretenir notre fiction. À nos yeux, les changements sont toujours synonymes de perte et de souffrance. Lorsqu'ils surviennent, nous essayons simplement de nous anesthésier autant que faire se peut. Nous nous obstinons à croire aveuglément et sans nous poser de questions que c'est la permanence qui procure la sécurité et non l'impermanence. Mais en fait, l'impermanence ressemble à certains individus que nous rencontrons dans la vie. De prime abord, peu commodes et dérangeants, ils s'avèrent, au fur et à mesure que nous les connaissons mieux, bien plus aimables et moins irritants que nous ne l'aurions imaginé. Réfléchissez à ceci. La réalisation de l'impermanence est, paradoxalement, la seule chose à laquelle nous puissions nous raccrocher. Peut-être notre seul bien durable. Elle est comme le ciel ou la terre. Tout peut changer ou s'écrouler autour de nous. Le ciel et la terre demeurent. Supposons que nous traversions une crise émotionnelle déchirante, que notre vie entière semble se désintégrer, que notre mari ou notre femme nous quitte soudain sans prévenir. La terre est toujours là. Le ciel est toujours là. Bien sûr, même la terre tremble de temps en temps à autre pour nous rappeler que nous ne pouvons rien considérer comme acquis. Et même le Bouddha mourut. Sa mort fut un enseignement destiné à secouer les naïfs, les indolents et les satisfaits, et à nous éveiller à cette vérité que toute chose est impermanente et que la mort est un fait inéluctable de la vie. Sur le point de mourir, le Bouddha déclara:
de toutes les empreintes, celle de l'éléphant est suprême. De toutes les contemplations de l'esprit, celle de la mort est suprême.
Chaque fois que nous perdons de vue cette évidence, ou que nous nous laissons aller à la paresse, la réflexion sur la mort et l'impermanence nous réveillent et nous ramènent à la vérité.
Ce qui est né mourra. Ce qui a été rassemblé sera dispersé. Ce qui a été amassé sera épuisé. Ce qui a été édifié s'effondrera, et ce qui a été élevé sera abaissé.
L'univers entier, nous disent aujourd'hui les scientifiques, n'est que changement, activité et transformation, une fluctuation continuelle qui est le fondement de toute chose.
Toute interaction subatomique consiste en l'annihilation des particules d'origine et en la création de nouvelles particules subatomiques. Le monde subatomique est une danse sans fin de création et d'annihilation de matière devenant énergie et d'énergie devenant matière. Des formes transitoires apparaissent et disparaissent en un éclair, engendrant une réalité sans fin, constamment recréé. Et bien voici donc cette émission qui se termine sur la partie de l'impermanence. Nous avons donc vu faire face à la mort et nuages d'automne. J'ai eu comme invité la grande faveur, la bonne surprise d'avoir Colin Levenberg pour cette lecture avec moi. Je rappelle que la personne pour l'émission précédente, Séverine, qui était venue pour une lecture. Je vous remercie et à bientôt dans la quatrième dimension. Nous continuerons donc dans la prochaine émission, le livre tibétain de la vie et de la mort.